en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Vous connaissez peut-être l'expression « vider la mer avec une petite cuillère ». Drôle d'idée, me direz-vous. Vider la mer, c'est pourtant la mission complètement folle qui a été assignée au personnage principal du roman dont nous allons parler aujourd'hui. Oh, pas une mer immense, hein, mais un grand lac d'eau salée situé en Asie centrale et qui fait quand même 68 000 km², la mer d'Aral. Pour y parvenir, cet ingénieur ambitieux et servile ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, au risque de déclencher une catastrophe écologique, la révolte des habitants du cru et qui sait, la colère de la géante qui vit au fond de l'eau. Et tout cela pour complaire aux caprices d'un homme, un homme auquel on ne peut rien refuser tant il terrorise tous ceux qui l'entourent, le camarade Iossif Vissarionovitch Djougatchvili, le petit père des peuples, j'ai nommé Staline. Staline a bu la mer, le deuxième roman de Fabien Vincent, mélange habilement toile de fond historique et fantaisie débridée, un livre plein de péripéties qui en dit long sur la chape de plomb et les dérives du totalitarisme. Il est paru chez Anne Carrière et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Fabien Vincent.
Bonjour Jean-François.
Avant de parler de la mer d'Aral, on va s'arrêter donc sur celui par lequel tout arrive. Le principal moteur de votre roman qui porte donc un nom qui fait encore frissonner, Staline. C'est un personnage romanesque, Staline.
Non, je pense que c'est un personnage terrifiant, épouvantable. Je pense qu'il y a trop de millions de morts pour qu'on puisse en parler comme d'un personnage romanesque. D'ailleurs, j'ai essayé de le traiter d'une manière burlesque ou ubuesque, mais de ne pas entrer dans une psychologie et de ne surtout pas l'humaniser.
Alors quand on s'empare d'un personnage aussi marquant de l'histoire avec un grand H, aussi ancré dans la mémoire collective, jusqu'à quel point le romancier que vous êtes s'autorise-t-il à en déformer les actions ?
Alors j'ai eu un modèle, ça a été le dictateur de Chaplin. C'est-à-dire que j'ai voulu le traiter comme un personnage qui pouvait être ridiculisé en fait. Et je pense que c'était une façon d'affronter la terreur.
Alors on sait à quel point, à la fin de sa vie, Staline était paranoïaque, qu'il s'enfermait seul la nuit par crainte d'être assassiné. D'ailleurs, les premiers mots de Staline qui arrivent sous votre plume, c'est une question « qui vient m'assassiner ?» On imagine évidemment le ton avec lequel il dit tout cela. En fait, vous n'avez pas eu beaucoup à forcer, Fabien Vincent, parce que vous mettez en plus en scène un Staline vieillissant, un Staline malade. Est-ce qu'on peut dire un Staline sénile ?
Sénile, je ne sais pas, mais malade, oui. Et d'ailleurs, son dossier médical a été connu très longtemps après, puisqu'il y avait une véritable chape de plomb sur toutes les connaissances médicales et les dossiers notamment des dirigeants de l'URSS. On l'a su bien après. On sait qu'il a eu 3 AVC. Le premier au sortir de la conférence de Potsdam, le deuxième en octobre 49 et le troisième qui l'a emporté en 53.
Et donc là, on est entre le deuxième et le troisième.
Ça a été mes deux bornes. Ça a été mes deux bornes.
Voilà. Donc il y a la folie, il y a la paranoïa, il y a le souvenir de Nadejda, sa femme tant aimée, et qui vient dans une des scènes du roman le hanter. Il peuple ses nuits, son visage. Il prend même la place du visage de la Vierge Marie. C'est vraiment un moment très très fort du livre qui arrive assez à la fin. Mais vous avez eu besoin comme ça de rythmer votre action de scène mettant précisément à nouveau en avant cette folie de Staline. C'est l'un des fils rouges du livre.
Oui, en fait, je pense qu'une des choses qui m'a guidé, c'était pour parler d'un écocide quand même, et d'un plus grand désastre écologique du XXe siècle, et parler d'un dictateur comme Staline. J'avais besoin de recourir, dans le cadre du roman, à un style de récit qui pouvait ne pas être le récit classique du roman historique, mais le mode de récit du conte et de la fable environnementale ou la fable écologique.
Alors, fable écologique, pourquoi ? Eh bien, parce que dans votre roman, Staline ne va pas bien, il a des nausées, il a des vertiges, il a de la fièvre, rien n'y fait, les médecins y comprennent rien, ou en tout cas, ils veulent pas précisément lui dire de quoi il retourne exactement. Et donc, Staline va finalement trouver la solution lui-même. Et l'explication qu'il trouve, c'est cette petite brise au relent iodé qui s'est insinuée jusque dans sa chambre. Cette brise, c'est donc l'ennemi. Et elle porte un nom, le baiser de la steppe. Alors, c'est une expression 100% Fabien Vincent, ça, ou vous l'avez trouvé quelque part ?
Non, c'est mon imagination.
Mais il existe ce vent venu des steppes d'Asie centrale ? Pas du tout.
Non.
Alors, comment est-il venu s'insinuer, non pas dans la chambre de Staline, mais sous votre plume ?
Eh ben, en fait, j'ai vu la mer d'Aral. Enfin, j'ai essayé de voir la mer d'Aral comme beaucoup de gens, et puis elle était très loin, donc j'ai pas pu la voir tout de suite. Mais je me suis trouvé dans cette steppe kazakh. Et en fait, dans la steppe kazakh, ce qui frappe, c'est le vent. Je pense que c'est la première sensation qui m'est venu à l'esprit, le souvenir d'être vraiment fouettée par un vent exceptionnel.
Et qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Fabien Vincent, à vous rendre dans cette région? C'était spécifiquement pour écrire là-dessus?
Non, j'étais jeune journaliste, j'avais 27 ans, c'était un de mes premiers grands voyages. Et je couvrais un rallye automobile et on me demandait un jour avant d'aller écrire une carte postale radiophonique sur des grands pays d'Asie centrale. Et un jour, je me suis trouvé à Aralsk, au Kazakhstan, un ancien port qui donnait sur la mer d'Aral.
D'accord, c'est pas une mer tout à fait comme les autres, hein, la mer d'Aral.
Non, elle est grande quand même. Je la traite de petite mer parce que Voilà, je voulais avoir un lien presque affectif avec elle.
Alors 68 000 km², hein, comme je le disais.
Elle fait quand même 420 km sur 280. Donc elle est quand même, c'est deux fois la Belgique, je crois.
Voilà.
Donc c'est quand même grand.
Oui, ça donne une petite idée. Oui.
Voilà. Mais je voulais quand même en faire un personnage avec lequel on puisse avoir un lien et raconter un supplice et donc qu'on s'attache à cette mère.
Alors vous avez enquêté justement sur son histoire, sur ses caractéristiques physiques, géologiques, sur l'hydrographie, sur l'écosystème, parce qu'il est présent en permanence par petites touches dans votre récit.
Je me suis beaucoup documenté, je voulais pas faire un roman qui allait s'alourdir de connaissances ou étaler du savoir, je voulais vraiment que le plaisir de lecture soit le premier guide et qu'on soit dans un vrai genre romanesque, un vrai plaisir à lire un livre, à être avec des personnages, à découvrir un environnement. Je me suis beaucoup documenté, j'ai lu beaucoup de traités d'hydrologie, beaucoup de traités d'historiens. Et d'ailleurs, on découvre que cette mer, au-delà de son drame au XXe siècle, a déjà une histoire romanesque en elle-même complètement folle.
Alors dans quel état elle est, la mer d'Aral, aujourd'hui? Alors, avant de reparler du roman, vraiment la réalité, la situation en 2022.
Très mauvaise. En fait, elle a été divisée en deux en l'an 2000. En fait, entre 1960 et aujourd'hui, elle a perdu 75% de sa superficie. C'est absolument dramatique. Elle a été divisée en deux parties, la petite mer et la grande mer. Les deux pays tentant de la raviver. Et aujourd'hui, elle doit couvrir quelques lagunes salées, quelques parties de lacs salés. Mais enfin, elle est complètement morcelée. Et toute vie y est vraiment impossible.
Donc, dans les deux pays, c'est l'Ouzbékistan et le Kazakhstan aujourd'hui. Alors, cette mer d'Aral, si elle se trouve dans cet état-là, si la biodiversité en a pris aussi un sacré coup, alors, c'est pas à cause de l'URSS de Staline, historiquement parlant. Mais c'est plutôt celle de Khrouchtchev. Hein, donc, celle des années 60.
Alors, vous avez tout à fait raison. Le roman n'est pas véridique, il est vraisemblable. C'est-à-dire que sur un plan véridique, le principal coup qui est porté à la mer d'Aral, c'est par Khrouchtchev à partir des années 60, parce qu'on industrialise complètement les principes d'irrigation et qu'il y a un bond technologique qui est fait.
Et pour développer les champs de coton aussi.
Voilà.
Donc
le premier détournement pour l'irrigation d'un des deux grands fleuves qui nourrit la mer d'Aral, c'est en 1918. Donc c'est tout à fait concomitant avec la naissance de l'URSS. Voilà. Et je trouvais qu'aussi Staline, le petit père des peuples, mais derrière le grand plan de transformation de la nature et le creusement du grand canal turkmène en 1950, qui
ça
était
sont
son
des
plus
réalités
grand,
historiques, hein.
Des réalités historiques et qui était son plus grand projet et le dernier projet complètement démesuré puisque ça aurait été le plus grand canal du monde, 1365 kilomètres creusés entre 1950 et 1960, c'était le plus grand projet de Staline. Il est mort en 53, il a été totalement abandonné tellement il était fou.
Et donc, vous avez eu l'idée de faire un glissement historique, en quelque sorte, et de dire, après tout, c'est crédible que Staline s'intéresse à ce point à la mer d'Aral, au point de vouloir la boire, la mer, la sécher.
Exactement.
Coqueral sur RFI, un remix signé d'une DJ kazakh qui s'appelle Nazira et qui est l'un des fers de lance du festival de musique électro organisé à Moynac et qui vise à mobiliser pour que revive ou survive la mer d'Aral. Fabien Vincent, vous êtes allé à Moynac aussi ?
Non, je suis allé à Aralsk, c'est-à-dire l'autre bout, la partie kazakh. Dans le roman, je parle de Moynac, je me suis documenté sur Moynac, mais je suis allé à Aralsk.
Alors c'est intéressant que vous parliez de l'autre bout, parce que quand on ouvre le livre, la première chose sur laquelle on tombe, c'est une carte. Alors on est à la radio, c'est important, mais je pense qu'il fallait vraiment effectivement que cette carte figure dans le roman. Et c'est vrai que au cours de la lecture, on s'y réfère de temps en temps. Alors on est à la radio, comme je vous le disais, Fabien Vincent, est-ce que vous pouvez nous décrire cette carte ? Alors c'est une carte 1950, aux alentours en tout cas de...
Voilà, quand la mer était encore dans sa magnificence, on peut dire, c'est une carte donc qui décrit cette mer aujourd'hui partagée et qui était partagée déjà entre la République socialiste soviétique du Kazakhstan et celle d'Ouzbékistan, coupée en deux à peu près, alimentée par deux grands fleuves qui descendent du Pamir, de l'Himalaya, enfin tout à fait puissants. L'Amoudaria au sud, qui est l'Oxus, le grand fleuve d'Alexandre le Grand dans l'Antiquité.
Là, on est côté ouzbek.
Côté ouzbek et côté kazakh, c'est ça, le Sirdaria. Voilà. Et le grand delta, c'est le delta de l'Amoudaria autour de Mouniac, justement.
Voilà. Et on voit très bien sur cette carte, donc, effectivement, que la mer d'Aral est nourrie par ces deux fleuves. Et l'idée des ingénieurs soviétiques pour étouffer définitivement ce fameux vent de la steppe qui vient désagréablement chatouiller les narines de Staline, c'est littéralement de tuer l'ennemi, de tuer la mer d'Aral et donc d'assécher en lui coupant les vivres, cette grande mer intérieure, et donc en bloquant les deux cours d'eau en question. Ça, déjà, intellectuellement, on se dit, mais c'est un truc extraordinaire. C'est du jamais vu ou c'est réellement historiquement avéré ici ou ailleurs ?
Alors, ce qui est fou, c'est qu'un bras... il existe un bras sec encore qui a coulé jusqu'au XVIe siècle, qui s'appelle l'Ouzboy, et qui reliait l'Amoudaria, donc le grand cordon nourricier sud de la mer d'Aral, avec la mer Caspienne. Et donc, quand Staline veut creuser son grand canal turkmène et relier donc l'Amoudaria à la mer Caspienne, je ne sais pas si tout le monde comprend parce que c'est une géographie un peu lointaine.
Oui, mais c'est important de parler de ça.
Il veut quelque part remettre en eau ce grand bras mort qui a existé jusqu'au XVIe siècle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'histoire. En fait, si on creuse derrière ce roman, en termes de connaissances, on peut s'amuser parce qu'il y a plein de petits cailloux comme ça que j'ai semés à droite à gauche.
Alors cette opération dans le roman, vous l'avez nommée la grande soif, et pour mener une tâche aussi titanesque, pour commander les opérations sur le terrain, eh bien il faut un ingénieur. Alors pas n'importe lequel, Moscou se met en quête d'un homme suffisamment compétent pour mettre en œuvre la volonté de Staline, faut pas se tromper. Cet homme, il s'appelle Leonid Borisov, il est fraîchement diplômé de la faculté des sciences, c'est le meilleur de sa promotion. En fait, il a plein de qualités, ce garçon, il a tout pour plaire aux autorités soviétiques.
Alors qualité, ça dépend pour qui ? Pour les autorités, oui.
Aux yeux des autorités.
C'est un fanatique, il a une foi marxiste absolument inébranlable. Ça, c'est la façade. Après, c'est un personnage qui a des failles, qui est représentatif aussi d'une génération de jeunes, d'enfants qui se sont retrouvés après la révolution dans le chaos de l'URSS des années 20 et 30. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas été mobilisé pour la Grande Guerre face à Hitler et qui en garde une sorte de rancœur et qui aimerait faire quelque chose de très grand pour sa patrie.
Alors il y a effectivement plusieurs étapes pour le lecteur dans la découverte du personnage de Borisov. Et au départ, vous le présentez comme un jeune diplômé assez froid, brillant, mais assez froid, une sorte de machine. Il n'est pas très populaire d'ailleurs au sein de la promotion.
Non, c'est le meilleur. Alors évidemment, je pense que voilà, c'est le lauréat.
On est jaloux.
On est jaloux. Je pense qu'il a tout à fait conscience que les éléments... Il a quand même tout de suite une forme de lucidité parce qu'il a conscience à travers son copain de chambrée, si je puis dire, que les meilleurs éléments aux yeux du régime sont des gens médiocres, capables de dénoncer, capables de ne pas trop se mettre en avant parce que c'était vraiment un immense défaut dans ce régime. Il fallait absolument être dans le rang.
Ne pas faire de bruit.
Oui. Ne pas faire de bruit.
Oui, voilà. Oui, voilà. Donc être un bon élève... Un bon petit soldat, mais rester à sa place.
Voilà. Et lui, il est à la fois doué d'une intelligence particulière, mais en même temps, il a tout à fait conscience de l'environnement dans lequel il se trouve.
Alors, il a aussi donc quelques failles plus personnelles, des failles plus familiales. On va pas raconter tous les éléments, mais il est célibataire. Il a pas une vie amoureuse extrêmement développée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il rêve, Fabien Vincent, ce personnage. Il rêve de voyage, il rêve de découvrir la planète et notamment l'Arctique. Il est pétri en fait de récits de grands navigateurs.
Oui, alors l'Arctique, c'est la grande aventure pour sa génération dans les années 40, puisque c'était avant l'espace, on a peut-être oublié qu'il y a eu une grande aventure arctique avec c'est le Sedov, enfin, et des grands héros soviétiques qui étaient sur des timbres, qui faisaient l'objet de grandes propagandes.
Comme Ivan Papanine, qui est un peu l'idole.
Ivan Papanine, c'est des grands héros de l'Union soviétique, et je pense qu'ils rêvent d'épaules, quoi.
Voilà, et donc ce Borisov est recruté par le patron de l'ingénieur amiral Aristote Berezinski, patron de l'Institut d'océanographie. Et pour Berezinski, c'est aussi un sacré pari, parce que Borisov, il doit absolument réussir, parce qu'il sait très bien que si son poulain perd, c'est lui qui va payer la note, et il n'a pas forcément envie de finir en Sibérie, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et puis le titre, moi j'ai découvert dans les littératures un peu autour, le titre d'ingénieur ingénieur amiral, qui est assez surprenant d'ailleurs.
Oui.
Ça existait, voilà.
Voilà. Alors quand on échoue dans l'époque soviétique, a fortiori l'époque stalinienne, c'est le déshonneur, la sanction peut être extrêmement lourde. Bref, grosse pression sur les épaules de Borisov et de son supérieur immédiat. Alors Borisov, il est quand même très fier d'être choisi, hein. Bon, mais il garde ça pour lui. Il n'ose pas en parler à son camarade de chambre. Vous le disiez, il n'y a pas vraiment de confiance entre les deux hommes, parce que c'est un petit élément dans le récit, mais qui va avoir une importance très importante dans la dernière partie du roman. Mais instinctivement, le lecteur, même s'il n'a pas des connaissances très fouillées de la période soviétique, il se dit décidément, dans ce régime-là, on n'a pas d'amis, quoi. On peut faire confiance à personne.
Non, c'est vrai. C'est vrai, et je pense que les années 30 étaient passées par là, ces grandes purges, ces dénonciations, ces personnes qui disparaissaient de nuit, qui se retrouvaient à la Lubyanka, donc dans les locaux du futur KGB. Et donc, il y a une immense terreur, hein. C'est une société de terreur.
A un ennemi, on ne s'entend pas avec le voisin, ben on l'accuse de déviance idéologique, et puis son sort est réglé.
Voilà.
Quoi.
Ouais, tout à fait. C'est attesté sur les dernières années, et puis sur toute la période stalinienne, en fait.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Fabien Vincent pour son roman « Staline a bu la mer » aux éditions Anne Carrière. Alors après Moscou, l'action de votre roman se déplace sur le terrain à la faveur donc du déplacement du personnage principal, ce fameux Borisov, qui va donc en mer d'Aral, côté ouzbek. Et voici comment vous racontez le début des travaux gigantesques lancés par cet ingénieur. Nous sommes à la page 56 de votre roman.
Tout un peuple d'ouvriers a afflué par régiment de 5000 hommes, venu grossir le chantier gigantesque sur lequel s'étend son autorité. De jeunes comme Somol, des pionniers, des gardes rouges qu'il complimente pour leur engagement sans faille dans le grand plan de transformation de la nature, voté par le Soviet suprême en 1948. Des Baltes, des Turkmènes, des Tatars, des Ukrainiens, des Forçats, des Brutes sortis des bas-fonds des métropoles, des Péquenauds venus des campagnes boueuses, arrachés aux tavernes louches, qui pourraient s'entretuer s'ils ne s'étaient pas rangés sous l'étendard de la mère patrie. Partout à l'étranger, les ouvriers travaillent comme des bêtes de somme dans les usines, démoralisés, trahis et exploités par les ruses et la mesquinerie de la grande bourgeoisie capitaliste. En Union soviétique, les héros de la classe ouvrière et paysanne rient dans le labeur. Un convoi d'excavatrices, de pelles géantes, de camions bennes longe l'autre rive. Le ciel devient sombre sous l'effet des gaz d'échappement. Une colonne de prisonniers, reliés entre eux par une chaîne invisible, ferme la marche sur la rive orientale de l'Amou Daria. Borisov considère ce renfort, constitué d'ennemis du peuple, avec un profond dédain. De la cochonnerie. Le rebut de l'humanité. Les koulaks qu'avait dénoncé sa mère. À quoi bon plaindre ces traîtres ? Ils ont propagé des kyrielles de mensonges, fait preuve du plus grand mépris envers la souffrance des pauvres. Ils méritent de périr, engloutis sous les pelletées de terre ou dans l'éboulement des falaises.
Et ça aussi, Fabien Vincent, c'est un peu une constante dans les régimes autoritaires. Les plus pauvres, les plus misérables et les ennemis du régime, ils servent de chair à canon, on peut dire ça comme ça.
Tout à fait, et je pense que j'avais à l'esprit aussi le creusement du canal de la mer Blanche, qui est donc ce projet complètement fou terminé en 1933, qui a fait 25 000 morts parmi les prisonniers politiques. Solzhenitsyn dit 10 fois plus, 250 000 morts. Donc ça donne une idée de l'horreur absolue de ces grands travaux, du prix de ces grands travaux, pour la gloire et la grandeur de la patrie.
Alors ça date pas d'hier, puisque dans l'Antiquité il y avait déjà évidemment ces choses-là, mais même récemment encore, quand on a parlé de la Coupe du Monde de football au Qatar, avec toutes les victimes que les grands travaux ont générées, on se dit mais finalement l'histoire avance, mais on n'apprend pas grand-chose.
Je sais pas si je ferai l'analogie, parce que quand même on vit dans
quand
un
même.
Monde tout à fait différent. C'est vrai que dans l'époque stalinienne, il y avait l'amour de la patrie, la croyance marxiste, la foi marxiste, ce climat de terreur.
Donc donner sa vie pour l'idéal.
Donner sa vie pour l'idéal. Et moi, je voulais un personnage idéaliste, d'une certaine manière. Il y a un romantisme pour lui, pour Léonid Borissov. Il croit encore à la cause.
Alors au passage, on voit aussi dans cet extrait et dans la première partie du roman, mais même dans l'ensemble du roman d'ailleurs, le mépris des Russes envers les autres peuples qui forment l'Union soviétique à l'époque. Alors pour un Borissov venu de Moscou, les Ouzbeks par exemple, ce sont des ploucs.
Oui, alors on parle pas de colonisation, c'est marrant, j'ai cherché dans les sources le mot colonisation parce que je cherchais le rapport exact entre les soviétiques et même parmi les auteurs ouzbeks, kazakhs, dans les journaux, dans les intellectuels de ces pays, et je trouve pas le mot colonisation. Donc le lien était compliqué à comprendre. Je pense que dans ce grand Turkestan russe au 19e siècle, qui a été déjà conquis par les Russes, il y avait des Khans, donc des petits souverains locaux, et pas vraiment de pays et de nations. Et c'est en fait l'URSS, la naissance de l'URSS, qui va coïncider avec la naissance de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan. C'est pourquoi ces pays sont toujours un peu gênés quand il s'agit de parler de la relation avec la Russie.
Et parmi les Ouzbeks qui jouent un rôle majeur dans votre récit, il en est un qui s'appelle Nabidjon Majilov. Et avant même que les travaux d'assèchement de la mer d'Aral ne commencent, eh bien, il enrage contre les soviétiques. Il faut dire qu'il est pêcheur. Et que le socialisme, c'est aussi le productivisme, hein, c'est-à-dire qu'on met la pression sur les pêcheurs pour avoir de plus en plus de prises, pour nourrir entre autres les conserveries qui à ce moment-là foisonnent dans la région. Et ça lui convient pas, évidemment, à votre pêcheur. Ça lui convient pas. Pourquoi ? Pour des raisons écologiques ou pour des raisons culturelles ?
Alors écologique, je pense que c'était un mot qui est un mot d'aujourd'hui. Je pense que c'est un chaman aussi, c'est un pêcheur chaman. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, qui fait un écho avec aujourd'hui, c'est que l'URSS, c'était une forme d'hyper-rationalité, avec des plans quinquennaux, des productions, des monocultures, par exemple, de coton pour l'Ouzbékistan, dans des pays où il y avait une civilisation extrêmement brillante par certains auteurs, mais aussi une grande croyance zoroastrienne, donc une de ses premières religions, des formes d'animisme qui ont perduré. Et donc, je voulais en faire un chanaman, c'est-à-dire quelqu'un aussi aux prises avec l'irrationnel. Et c'était la rencontre des deux que je trouvais détonnante.
Et pour lui, la mer d'Aral est sacrée.
Elle est sacrée. Alors, il y a une nécropole zoroastrienne qui se trouve en ruine, je crois, en Ouzbékistan, qui prouve que la mer d'Aral a été un des grands berceaux de cette religion qui a précédé les grands monothéismes, qui est une des plus vieilles religions de l'humanité. Et donc, je trouvais intéressant que, même avant l'islamisation de cette région, de garder des survivances de ces croyances zoroastriennes à travers ce personnage.
Avec aussi une forme de personnalisation, puisque Nabidjon, il veille sur la gardienne de la mer d'Aral. Alors, on ne sait pas si c'est un personnage réel, si c'est un monstre, si c'est une entité plus animiste. Hein. Enfin, voilà, c'est un personnage que vous avez créé. Vous êtes parti de quelque chose de réel, Fabien Vincent, ou pas du tout?
Alors en fait, je suis parti de l'idée que cette mère pouvait, puisqu'elle est suppliciée, pouvait être la mère de toutes les mères, c'est-à-dire vraiment le modèle de toutes les mères. Donc je me suis autorisé.
Et donc parce que la mère, M-E, accent grave, R-E.
De toutes les mères, voilà.
Voilà.
Et donc je me suis autorisé, c'est le plaisir du romancier, je ne suis pas historien, d'aller puiser dans toutes les mythologies maritimes du monde. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de mythologies, il y avait une divinité liée à la mer ou à un fleuve ou à un lac. Souvent une divinité, c'est souvent une femme. Et par exemple, je pense au Groenland, c'est une femme dont la chevelure peut retenir les poissons au fond de l'eau comme un filet et s'ouvrir pour lâcher les poissons pour les pêcheurs. Donc il y a des croyances comme ça à travers le monde que j'ai revisitées dans ce livre pour voyager beaucoup.
Dilber Gina et la voix de la chanteuse ouzbek Yulduz Turdiyeva dans BMDN sur RFI avec Fabien Vincent qui publie Staline a bu la mer, son deuxième roman aux éditions Anne Carrière. Alors il y a un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est pourtant un personnage clé, c'est une jeune femme, une métisse aux yeux verts qui s'appelle Elmira Korsakova. Elle fait partie du même clan que Nabidjon, hein, le fameux pêcheur chaman qu'on évoquait il y a un instant. Elle travaille sur le site des travaux, elle est serveuse dans le réfectoire où l'ingénieur Borisov a l'habitude de prendre ses repas, et très vite il se passe quelque chose entre eux, et vous écrivez Fabien Vincent, je cite, « Elle a déjà l'impression de le connaître intimement. Pour dire les choses, elle le prend comme il est. » En parlant évidemment de Borisov. Ces deux-là, aussi improbables que cela puisse paraître, ils étaient faits pour se rencontrer.
Sans doute, sans doute. Enfin, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Effectivement, elle perçoit tout de suite ses défauts. Et elle comprend qu'elle est peut-être la personne qui peut correspondre à ses défauts.
Voilà, mais côté ouzbek, ça fait un petit peu jaser, forcément, parce que pour eux, j'allais dire plutôt pour elles, parce que ce sont surtout les femmes hein, qui sont choquées, les VIP du village qui jacassent, pour reprendre vos mots, Fabien Vincent. Pour elles, donc, une ouzbek ne doit pas frayer avec les Russes. Quoi. Alors, vous parliez de colonisation tout à l'heure, est-ce qu'on a un peu l'impression, là encore, on utilise des mots qui ne correspondent pas forcément à l'époque, mais tout de même, est-ce que chez les Ouzbeks, il y a le sentiment que les Russes sont des envahisseurs, des occupants, et Elmira, si elle fraye avec un Russe, en plus un Russe qui a du pouvoir, serait une collabo?
Alors il y a deux sociétés en fait, je pense, dans cet Ouzbékistan que je décris. Il y a une société clanique, très croyante, immuable, avec des rites ancestraux traditionnels et une loi des clans. Et il y a eu une élite qui, dès le début de l'URSS, a joué le jeu. Et donc il y a eu une émancipation des femmes en Asie centrale dans les années 20 et 30.
Elles ont
Apportée par les Russes. Une émancipation, l'accès au savoir, un certain nombre d'interdictions, l'interdiction du voile intégral, l'interdiction de la polygamie, et l'accès des femmes à l'université, à l'étude et au savoir, ce qui était d'ailleurs une des grandes fiertés de l'URSS, d'avoir répandu chez les peuples frères le savoir, la connaissance.
Et Elmira est aussi l'enfant de ces changements sociétaux-là.
Elle est les deux. Elle est à la fois, c'est pour ça que j'en ai fait une métisse, c'est pas seulement une métisse sur le plan du sang, c'est aussi une métisse sur le plan du sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aux confins de l'URSS, de la part que fait l'URSS aux femmes ouzbèques, et aussi de la culture clanique très ancestrale et très traditionnelle des ouzbèques.
Il y a une nouvelle étape que va franchir Elmira, grâce ou à cause, selon le camp dans lequel on est, de Borisov, c'est que Borisov va lui offrir un vélo. Et ça, c'est une scène assez extraordinaire. C'est-à-dire que le vélo, dans le livre, pour Elmira, c'est une sorte de cheval qui l'emmène vers la liberté.
Il y a eu de grands films sur ce thème-là, dans les pays arabes, dans les pays du Golfe. Il y a eu le vélo, les femmes, l'émancipation. C'est un thème qui, à mon avis, était quelque chose qui est déjà... qui a été raconté. Moi, je m'en suis emparé avec grand plaisir. Hein.
Voilà. Ouais, c'est une scène vraiment très courte, mais magnifique, qui en dit très très long, finalement, en très très peu de mots. Et ça choque beaucoup hein, les Ouzbeks les plus traditionnels. Et bon, on va avancer un tout petit peu. Ce qui devait arriver finit par arriver. Le lecteur aurait été extrêmement déçu, Fabien
Ne
Vincent.
Racontez pas la fin.
Non, on raconte pas la fin. On s'arrête juste à la page 103.
Il avait oublié qu'il avait un ventre, des jambes, un sexe. Même le désert, dans lequel il n'avait rien vu d'autre qu'un vide angoissant, s'ouvre maintenant devant lui. Et Léonide éprouve le désir de se détacher, morceau par morceau, de l'ambition, de la conquête, de la volonté de puissance. et ce désir n'est pas si compliqué à vivre. De nouvelles larmes de confusion lui montent aux yeux. Et si ce paysage ne relevait pas d'un simple assemblage d'atomes, dépourvu de mystère, comme le prétend la doctrine marxiste? Si sa lutte acharnée contre la mer minuscule était absurde, à quoi bon l'élévation, les poses victorieuses, quand il suffisait de se prosterner devant l'élan vital qu'elle insuffle? Elmira sourit en reconnaissant les arômes d'absinthe et de genévrier qui flottent dans l'air. Un élan de tendresse les traverse, à l'idée qu'ils se fondent ensemble dans le grand cycle de la nature, à l'idée que chaque gramme de leur chair est destiné à un grand mûrissement, à un commencement inévitable et à une fin nécessaire. La modestie touchante de la petite mère ouvre à Léonide les portes d'une sensibilité nouvelle. Un instant, il se dit qu'ici, bientôt, on ne trouvera plus qu'un lac salé, puis l'étendue d'eau se réduira encore, comme peau de chagrin. Les hommes pourront cependant témoigner, à l'échelle dérisoire de leur courte vie, qu'il a existé une mer rafraîchissante, où l'on pouvait se baigner quand les chaleurs rendaient l'air irrespirable. Léonide craint soudain de sombrer dans une sorte d'idiotie béate, une sottise de poète. Il soulève Elmira par la taille, elle ferme les yeux. Il s'enfondre ses défenses. Il glisse sa langue dans sa bouche, presse son bassin contre le sien. C'est la première fois qu'il touche une femme. Elle vacille, se laisse embrasser avec volupté, sans le moindre artifice. Elle s'abandonne à son amant, les yeux perdus à la surface des eaux dormantes.
Et immédiatement après cette scène, Fabien Vincent, le vent se lève, la tempête arrive comme si les éléments se déchaînaient pour annoncer la suite et tout ce que cette relation entre Elmira et Borisov va entraîner comme péripétie. Alors je laisse évidemment les auditeurs les découvrir, on va pas divulgâcher comme disent nos amis québécois, mais je voudrais quand même qu'on dise quelques mots d'un concept que l'on trouve dans la deuxième partie du roman, la rééducation socialiste de la nature. Justement, on parlait des éléments. Là aussi, vous n'êtes pas parti de rien pour rédiger ce chapitre-là.
Non. Là, il y a vraiment une abondante recherche scientifique et puis d'abondants textes avec un idéologue, Lysenko. Et il y a une vision totalement matérialiste de la nature. Je crois qu'on le voit bien dans cet extrait. Et d'ailleurs, le livre propose globalement une réflexion sur la nature entre le matérialisme et la spiritualité. Est-ce que la nature est un assemblage d'atomes qu'on peut utiliser comme on le veut? Je pense que la période actuelle nous prouve que non. Toutes ces questions sur le dérèglement climatique nous prouvent bien que la nature est la plus forte et qu'elle dépasse largement le savoir des hommes. Mais à l'époque, à travers Lysenko, qui donc imagine des théories scientifiques concurrentes de Darwin et d'autres, il y a une vision totalement socialiste et totalement utilitariste de la nature. On peut l'utiliser à l'infini, elle est illimitée et elle est là pour être dominée pour le peuple.
Une vision socialiste, une vision prolétarienne même, pourrait-on
dire. Tout à fait.
Voilà, c'est une phrase, cette phrase que je cite là, ce que nous nommons science, vous le faites dire à un savant, hein, ce que nous nommons science ne peut être valable qu'en tant que science prolétarienne. Donc là, on est aussi au-delà de la dimension purement écologique, dans la dimension totalitariste la plus symbolique, d'une certaine façon.
Tout à fait, et là, le grand plan de transformation de la nature de 1948, imaginé par Staline, il suffit de lire la rhétorique de l'époque, la nature est là pour servir le peuple. Et elle est là pour être dominée au service du peuple. Elle n'a pas d'existence propre. D'ailleurs, on n'imagine même pas une seconde qu'elle puisse être épuisée ou quoi que ce soit. Elle est vraiment au service du grand projet de l'URSS.
Et ça débouche sur une autre lubie qui peut à la fois faire sourire et terrifier. Staline veut qu'il fasse beau le jour de son anniversaire.
Alors, il a vraiment existé.
Bah, il me semblait bien aussi.
Il a vraiment existé un bureau de la météo expérimentale en URSS qui devait à la fois permettre de pleuvoir dans les endroits les plus secs et d'éviter cela dans d'autres endroits.
Mais donc, ça, techniquement, c'est possible. On peut effectivement faire exploser les nuages à l'endroit où l'on veut.
Il y a beaucoup de pays qui ont essayé.
Aujourd'hui, ça l'était déjà à l'époque.
Dès les années 20 et 30, je pense que l'URSS a eu les premières expérimentations. Il y a eu des expérimentations très récentes, hein, et c'est aujourd'hui encore une réflexion terrible, hein, d'ailleurs, d'imaginer encore plus jouer les apprentis sorciers avec le climat. Quoi.
Voilà, et on en revient encore une fois au rapport entre l'être humain et la nature, qui est encore plus complexe lorsque l'idéologie s'en mêle. Mais l'idéologie, elle peut être aussi dans le camp d'en face, Fabien Vincent d'ailleurs.
Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la nature et des grandes catastrophes écologiques, on se réfère au capitalisme. Et je pense qu'on a un peu oublié cette conception de l'URSS de la nature, qui n'en faisait pas un bien, mais quelque chose au service d'un projet marxiste.
Alors, l'écocide, c'est évidemment l'un des grands thèmes de ce roman, thème extrêmement sérieux, réflexion politique, réflexion philosophique aussi, réflexion politique, et en même temps des moments extrêmement drôles, extrêmement cocasses, ubuesques, burlesques, disiez-vous tout à l'heure. Fabien Vincent, avec des personnages comme Borisov et Elmira, qui vont tutoyer des sommets absolument incroyables et atteindre les abysses. Il y aura même d'ailleurs une histoire vraiment dans les tréfonds, hein. On va pas en dire plus. Comment est-ce que vous avez fait pour mélanger tout ça, justement, tous ces éléments, parfois historiques, parfois légèrement détournés, tous les éléments sociologiques, tous les éléments psychologiques, les croyances, les mythes divers et variés, et en plus en apportant cette très grande dose d'humour.
Le lien, pour moi, ça a été le plaisir que j'ai ressenti en tant que lecteur à lire Jules Verne, Kessel, Conrad, les grands écrivains.
Vous connaissez cette patte-là, c'est clair.
Les grands écrivains que j'ai admirés, ouais, comme lecteur. Je me suis dit, si à mon petit niveau, je pouvais procurer ce même plaisir, ça a précédé absolument toutes les recherches, Moi, je voulais que les gens, en lisant cette histoire, aient du plaisir. Comme moi, j'ai eu du plaisir à lire ces grands romans d'aventure qui m'ont fait rêver.
Alors, plaisir de lecteur, c'est clair. En même temps, on est obligé aussi de se dire, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et après, on tourne la page et on se dit, ah oui, mais ça, quand même, historiquement, ça a du sens. Et donc, c'est vrai qu'on est obligé parfois, enfin, on n'est pas obligé, mais on est souvent incité à quitter la lecture, en quelque sorte, à aller regarder sur son moteur de recherche préféré, à vérifier tel ou tel truc. Et ce qui fait que ce livre-là, c'est aussi un petit jeu, finalement. Hein. Le lecteur et vous jouez un petit peu à cache-cache entre la vérité, la réalité, le rêve. Il y a un côté un peu réalisme magique aussi, quelque part.
Tout à fait. Et un des livres que je préfère, c'est Le Maître et Marguerite de Bougalkov. Donc, c'est un des grands livres, un chef-d'œuvre.
Hein. Absolument.
Et donc, dans ce genre-là. Et je trouve que c'était assez amusant de jouer avec le lecteur aussi, de semer des indices. Ça me fait plaisir que vous l'ayez remarqué.
Et vous êtes, justement, un grand lecteur de littérature russe?
Je parle pas russe, donc c'est déjà un handicap, mais j'ai lu tout ce qui est traduit, beaucoup de choses traduites, et j'ai une grande admiration, et puis voilà, c'est des immenses romanciers pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration.
Alors, plaisir de lecture, on en parlait. Plaisir d'écriture aussi, parce que ça va pas forcément avec. Hein. Il y a des écrivains qui suent sang et eau pour donner justement ce plaisir-là au lecteur. Est-ce que vous avez une écriture plaisir ou une écriture souffrante, Fabien Vincent?
Non, je souffre pas du tout. En fait, c'est vraiment un plaisir pour moi, ça me vient assez naturellement, peut-être un peu trop, j'ai besoin de bien me relire et bien me corriger, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me vient naturellement de l'imagination, comme un gisement comme ça, qui me nourrit tout le temps.
Eh bien, le résultat est là, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Votre livre Staline a bu la verre est disponible, je le rappelle, aux éditions Anne Carrière.
سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا خلينا وكسبانا سنين سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا خلينا وكسبانا سنين.
Bonjour Marjorie Bertin.
Bonjour Jean-François Cadet.
Vous allez nous parler d'art et d'amour aujourd'hui. Vous êtes allé à l'Institut du Monde Arabe à Paris voir Habibi, Habibti, les révolutions de l'amour.
Une exposition d'art contemporain très dense, réalisée par des artistes qui n'ont pas froid aux yeux. C'est un vent de liberté qui souffle sur l'Institut du Monde Arabe, avec cette exposition unique en son genre. Habibi et Habibti en arabe, est-ce que vous savez ce que ça signifie?
Mon amour, mon chéri.
Bravo. Et mon amour, donc Habibi pour un homme, Habibti pour une femme. Un amour qu'on ne peut clamer dans la plupart des pays arabes quand on appartient à une minorité. C'est ce qu'on voit dans ces œuvres dédiées aux LGBTQIA+.
Alors rappelez-nous peut-être Marjorie ce que signifie exactement ce terme un peu compliqué.
Alors lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel et le plus pour tous les autres. Alors d'après Elodie Bouffard, l'une des commissaires de l'exposition, ses œuvres et ses artistes dépassent cette question du genre.
De plus en plus, des artistes se saisissent des thématiques queer pour en faire un sujet artistique qui va bien plus loin aussi que les identités de genre ou les identités sexuelles, qui interroge les identités culturelles, les identités religieuses et finalement qui questionne la norme et les sociétés contemporaines dans leur intégralité. Donc on était vraiment dans la recherche finalement d'une relation avec aussi quelque chose de dynamique qui interroge aussi le public dans son intégralité.
Alors dans certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, l'homosexualité est toujours passible de la peine de mort et considérée comme un crime dans la plupart des pays arabes. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'intimité, elle est au cœur en fait de toute cette exposition qui commence avec des tableaux de couleurs vives du peintre marocain Sofiane Ababri, qui met en scène de façon très explicite des couples d'hommes faisant l'amour ou s'habillant. On voit ensuite l'étoile de l'Iranien Alireza Shojayan, dont les sujets sont aussi souvent des nus, mais surtout des nus très vulnérables. Ensuite, ce sont les peintures de sa compatriote, Kubra Kademi, sur lesquelles on peut notamment voir des orgies de femmes nues.
Alors c'est sulfureux, mais elle n'est pas arabe, Kubra Kademi. Elle était exposée cet été au Festival d'Avignon, dans le sud de la France, et je crois qu'elle est iranienne, Marjorie.
Oui, justement, ces artistes iraniens et arabes s'inscrivent dans une tradition musulmane commune qu'on retrouve dans leurs œuvres et que Lima voulait souligner. Alors, un autre ancrage commun, évidemment, c'est la Méditerranée. Alors, moi, j'ai été particulièrement saisie devant Sépulture aux Noyés, une installation constituée de 550 bouteilles qui forment une sorte de totem géant, en verre donc, qui semble revenu de la mer. C'est une œuvre de la Tunisienne Aïcha Snoussi qui propose une archéologie fictionnelle. En fait, elle l'imagine comme une Atlantide queer, noyée depuis 7000 ans, dont les vestiges seraient engloutis au large des côtes tunisiennes. Élodie Bouffard.
Dans chacune de ces bouteilles, de l'eau, mais surtout un message d'amour écrit par Aïcha Snoussi. Aïcha Snoussi part du fait que dans la culture arabo-musulmane, littéraire comme juridique, les relations lesbiennes sont complètement occultées. Et donc, en fait, elle part finalement de ce vide en en faisant un plein. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace qui n'existe pas, c'est un espace à conquérir.
Alors il y a les espaces à conquérir aussi dans les installations du Libanais Omar Mismar, qui lui établit une cartographie des endroits où en voiture il peut tenir la main de son amant. Acte secret, amusant et dangereux, l'amour se vit caché, censuré, parfois exclusivement virtuel aussi. Il y a les espaces conquis, comme la chambre, les Libanaises Jeanne et Moreau nous restituent la leur en archéologues du quotidien. Photos échangées, correspondances cryptées par les téléphones. D'ailleurs, les correspondances sont souvent présentes dans ces pièces. Et ce n'est pas un hasard, d'après Nada Majoub, également commissaire.
L'idée de la correspondance est très présente, et que ce soit des correspondances à soi ou aux autres ou au monde, et même des correspondances historiques, comme dans le travail de Aïcha Snoussi. C'est une thématique qui revient souvent. Je pense qu'elle vient aussi de cette idée de documenter les récits de soi, et que les lettres sont finalement des archives de sa propre histoire, ou de l'histoire en commun, ou de l'histoire du couple, finalement. Et c'est pour ça qu'on la retrouve comme un moyen de documenté et d'archives personnelles.
Alors, la seconde partie de l'exposition est très différente. On descend des escaliers, la lumière baisse, quelques néons surgissent et nous guident dans une ambiance feutrée, un peu night club. Sur les murs, des peintures sont éclairées comme autant de points de lumière. On plonge, vous l'aurez compris Jean-François, dans le monde de la nuit. Au centre, dans une salle circulaire, des vidéos du gracieux Syrien Darwish qui s'habille et danse comme Ruby. Est-ce que vous connaissez Ruby ?
Eh bien non, mais peut-être que vous allez nous la présenter.
Oui, moi je l'adorais. Elle était brune, elle était langoureuse et égyptienne. Dans les années 2000, c'était la pop star, la Britney Spears du monde arabe. Et la figure des drag queens, elle est assez présente aussi et paradoxalement, elle est plus admise dans certains pays arabes. Nada Majoub.
Ce qu'il y a dans l'art du drag d'assez attractif pour un plus large public, c'est vraiment ce côté un peu spectaculaire. Et ce côté spectaculaire est plus facilement admis parce qu'il peut être aussi catégorisé comme de la pop culture et peut être plus facilement aussi incorporé à une culture mainstream. Et je pense que la culture trans fait partie de cette conversation finalement globale sur ce que c'est que l'identité de genre qui est en train de gagner du terrain. Et donc ces communautés-là, trans du monde arabe, emboîtent le pas justement de ce mouvement mondial pour pouvoir être plus visible et travailler sereinement.
Alors on voit aussi les travaux de l'une des premières drag queens arabes de New York, Sultana, qui se met en scène dans son clip « From New York to Amman ».
On voit Sultana manger une knafé dans un petit café de Amman. Ensuite, on la voit déambuler dans le métro new-yorkais. Tout le clip est construit comme ça, par des scènes qui se passent dans les deux villes, où Sultana est soit dans sa personnalité civile, qui est Faris Rizq, qui est un homme habillé de manière conservatrice, costume, cravate, et puis on a un passage vers Sultana, qui est son alter ego drag, personnage extrêmement féminin, extrêmement voluptueux, très humoristique, sur cette musique où Sultana chante.
Alors ce que vous pointez ici, c'est aussi l'exil, Marjorie.
Mais oui, bien sûr, parce que si Sultana vit librement, c'est qu'elle vit à New York. Une partie des artistes exposés sont en exil. Ceux qui restent s'emparent aussi parfois des grands mouvements. Léa Djeziri, du collectif féminin Shift, par exemple, elle montre quant à elle en roman graphique comment les LGBTQIA+, ont participé activement au printemps arabe tunisien, la révolution de Jasmin en 2011.
Marjorie Bertin pour VMDN, l'exposition Habibi Abdipti, les révolutions de l'amour, à voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'au 19 février 2023. Demain, l'écrivaine américaine Lionel Shriver pour son nouveau roman « À prendre ou à laisser » chez Belfond, un livre très original, une série de variations en fait, de variations littéraires bien sûr, sur un sujet difficile, la fin de vie, la vieillesse, un livre en même temps plein d'ironie et d'humour à découvrir. Donc dans l'émission de demain, l'info dans un instant sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.